the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell.
I'm gonna do it tonight.
Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mortal can resist the evil of the thriller.
La vérité est bien ailleurs, dans les mondes imaginaires, mais pas dans X-Files. Aujourd'hui, Mondes Imaginaires vous ouvre les portes de la non-mort, un lieu où vivent, revivent, survivent les monstres recomposés, les amas de membres qui marchent, les ghouls, les zombies et compagnie. Le Tout Genève en parlait à son ouverture. Nous, c'est maintenant qu'on vous parle de l'expo Frankenstein à la Fondation Bonne-Mère, avec un petit bilan au moment de refermer ses portes. Et autour de Mary Shelley et son monstre, Jess, Joe et moi ferons graviter des parodies, des jeux, des films, des ouvrages de référence sur les monstres et les zombies. Bienvenue dans Mondes Imaginaires.
Depuis la mi-mai, un monstre a établi domicile à Colonie, à la Fondation Bodmer plus précisément, la créature de Frankenstein. Pour fêter le bicentenaire du roman Frankenstein le premier et moderne, la Fondation Bodmer a monté une exposition autour du roman en question. Pour rappel, ce roman raconte la création d'une créature assemblée avec des parties de chair morte par un savant suisse, Victor Frankenstein. Oui. Frankenstein, ce n'est pas le nom du monstre, c'est le nom de son créateur. Quoi qu'il en soit, Frankenstein prend peur devant sa création et l'abandonne. La créature décide donc de se venger. Au programme de cette expo, pas de grand bonhomme en chair ou tout vert, mais plutôt une immersion dans ses origines avec des écrits, des tableaux et des gravures. L'exposition met en avant les œuvres qui ont inspiré l'auteur Mary Shelley et présente également le manuscrit de son roman, son journal intime, l'exemplaire de la première édition annotée et d'autres documents inédits. À part le fait que la Fondation Bonne-Mère possède une collection énormissime de textes, de manuscrits et de livres, il existe une autre raison pour laquelle l'expo sur Frankenstein se passe à Colonie. C'est précisément là-bas que la jeune Mary Shelley écrit son roman Frankenstein. En 1816, un groupe d'amis en voyage en Suisse se retrouve à la Villa Diodati, tout près de la Fondation, à Colonie. Parmi ces jeunes gens, il y a Mary Shelley, son futur mari, et Lord Byron, un poète anglais. Alors qu'ils espéraient profiter du beau temps, ils ont été bloqués dans la villa à cause de la pluie incessante lors d'une année sans été. Pas de bol, hein ? Pour tromper l'ennui, Lord Byron propose à ses amis un petit concours d'écriture. Ce moment-là est un moment clé pour nous, passionnés de littérature de l'imaginaire. C'est lors de ce petit concours improvisé que Byron écrit Le Vampire, le premier récit qui lance le thème du vampirisme en littérature. Mais plus important, c'est là qu'est né un nouveau genre littéraire. Car la jeune Mary Shelley, en créant son Frankenstein, invente, probablement sans le savoir, la science-fiction. 2 ans plus tard, son roman est publié et devient immédiatement un best-seller. On catalogue le récit de roman gothique abordant l'horreur et la philosophie. La raison de ce succès est simple. Encore aujourd'hui, les thématiques sont larges et touchent directement les lecteurs, puisqu'on retrouve l'éthique scientifique, la montée en puissance de la technologie, la technologisation du corps humain, etc. Frankenstein est un roman qui a traversé les âges, qui reste d'actualité. L'expo est belle. On ne s'attend pas forcément à tomber sur des textes, c'est vrai. Mais en même temps, pour une fois, se focaliser sur la source initiale, c'est peut-être un petit peu mieux. Un point de vue particulier qui mérite notre intérêt. Si nous avons éveillé le vôtre, vous avez encore une semaine, jusqu'au 9 octobre, pour visiter l'exposition « Frankenstein crée les ténèbres ».
Imaginaire vous a parlé de traditionnel. Oui, quoi de plus traditionnel en littérature de monstres que Frankenstein. Mais l'adaptation va plutôt faire dans l'adaptation.
Je suis un livre.
Non, je suis une BD.
Non, je suis un film.
Zombie. Ok, vous connaissez Jane Austen ? Orgueil et préjugés ? Je vous promets, il y a un lien. Orgueil et préjugés, un roman écrit 19e siècle qui raconte l'histoire de la famille Bennet, qui a des filles à marier parce qu'elles ne peuvent pas hériter. C'est l'histoire d'Elisabeth, de Monsieur Darcy, qui ne se supporte pas mais qui tombe quand même amoureux, etc. etc. Un roman très traditionnel, qui, à sa sortie, a été compris comme une critique de la société anglaise du 19e et du statut des jeunes filles de la classe moyenne. Aussi traditionnel que Frankenstein. Un peu moins de 200 ans plus tard, en 2009, Seth Graham Smith se lance dans un projet quelque peu risqué, à savoir reprendre le roman culte de Jane Austen en rajoutant un ingrédient inédit, des zombies. Avec Orgueil et préjugés et zombies, l'auteur ne renie pas du tout le monde de Jane Austen, au contraire, puisqu'il l'a fait apparaître en tant que co-auteur. Il suit le principe du mash-up, il a conservé 85% du texte original et saupoudre le tout de zombies qui interviennent de temps en temps. Les filles Bennett sont toujours à la recherche du meilleur parti à marier, mais savent également se battre en suivant un code d'honneur inspiré des arts martiaux japonais. Alors ouais, quand on pense au contexte, on se dit que ça pue. Et pourtant, le concept est vraiment chouette. Alors, il faut avoir lu Jane Austen avant, parce que son esprit est complètement conservé, il est imprégné dans le bouquin, il n'y a rien à faire, on s'en détache pas. Mais les zombies, rajoutés là-dedans, ça donne un mélange assez sympa. Ils sont plutôt en arrière-plan et servent de contexte, et les parties où ils apparaissent sont relativement gore quand même. La démarche est assez culottée, il fallait oser, mais ça fonctionne. Évidemment, le livre a été adapté en film en février 2016. On ne pouvait pas passer à côté de ça. Il porte le même titre que le livre et le reprend de manière fidèle. Il a l'avantage d'expliquer un contexte possible dans lequel les zombies seraient apparus, à savoir les voyages dans les colonies anglaises ramènent un fléau. Ce fléau, c'est les zombies. Ce n'est pas un film d'horreur, mais plutôt un film d'action. Et il ne faut pas vous attendre à un film avec un budget monstrueux, avec des effets spéciaux à tomber par terre, mais c'est vraiment sympa, ça vaut le coup. Et puis, bon, j'ai dit budget pas monstrueux. Ils ont quand même réussi à se payer Charles Dance et Lena Headey, qui, pour rappel, incarnent respectivement Tywin et Cersei Lannister dans Game of Thrones. Plutôt classe quand même. Bref, que votre cœur balance entre le livre ou le film, moi, je vous dis, sautez sur Orgueil et préjugés et zombies, ça vous dépaysera un bon coup. Thank you.
Et ouais, c'est la daube.
Imaginez-vous là, maintenant, tout de suite, là où vous êtes, avec votre cerveau, vos pensées, mais que votre corps ne répond plus. En fait, votre corps est en train de dépérir et vous ne pouvez rien faire. Vous êtes conscient que vous dépérissez. Vous essayez de parler, mais tout ce que vous arrivez à dire, c'est... Voilà le concept que nous propose Isaac Marion dans son livre appelé « Vivant », qui est de 2011, qui est un concept tout à fait original, vu que pour une fois, on se met dans la peau des zombies. C'est très bien. Moi, personnellement, j'ai adoré la première partie, qui est justement tout ce qui se passe dans la tête d'un zombie, enfin, ce qui pourrait se passer dans la tête d'un zombie. Mais la deuxième partie vient un peu gâcher, parce que la deuxième partie, c'est une histoire d'amour impossible à la Roméo et Juliette. Je m'explique. Les zombies, pour survivre, doivent manger de la chair humaine. Bon, ça tout le monde le sait. Mais pourquoi un tel attrait pour les cerveaux ? Isaac Marion nous propose une solution qui est que le cerveau, une fois qu'il est ingurgité par le zombie, provoque des sentiments et des émotions. Car en même temps qu'on ingère cette matière grise ou blanche, les souvenirs qui y sont contenus apparaissent dans la tête du zombie.
I want your brains.
Monsieur R, qui est notre zombie, va manger le cerveau d'un amoureux transi, Perry, qui aime une Julie et qui l'aime à mort, je pense qu'on peut le dire comme ça. Et en ingurgitant le cerveau de Perry, R va tomber amoureux de cette humaine, qu'il va enlever sans la manger. Et ils vont apprendre à se connaître. Et au fur et à mesure, l'amour va réchauffer le pauvre petit corps de R qui va se sentir revivre.
C'est chou, c'est R et Julie. Alors, pour ceux qui n'auraient pas fait le lien entre Roméo et Juliette.
Exactement. Et justement, je trouve ça un petit peu trop téléphoné. Le concept est pourtant bon. J'étais vraiment toute contente d'être dans la peau d'un zombie. C'était vraiment chouette. C'était vraiment, vraiment cool. Mais pour en arriver là, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. De plus qu'il faut quand même des vrais méchants. Donc il y a les osseux qui sont des anciens zombies qui sont devenus... qui n'ont plus rien d'humain, qui sont des sortes de squelettes, qui vont pourchasser les zombies qui sont en train de se réveiller à l'humanité et qui en veulent à R et Julie, j'allais dire Juliette d'ailleurs, pour ce qu'ils sont en train de provoquer. Il va s'en suivre une sorte de course-poursuite qui va amener chez les survivants qui vont plutôt bien prendre la chose pour finir et accueillir les zombies face aux osseux. Donc, c'est un petit peu trop téléphoné, mais dans le livre, ça passe encore. Il y a une certaine psychologie, on peut encore comprendre. Mais il y a un film qui a été fait en 2013, il me semble, qui s'appelle Warm Bodies. La première partie, donc il y a justement cette découverte du zombie, est très très vite passée. Je pense que c'est pas forcément très important et très intéressant cinématiquement parlant. Par contre, toute la phase avec Julie, etc., aurait pu être intéressante, mais elle est même bâclée. On ne voit pas l'attachement qui se crée entre le mort et la vivante. Par contre, on voit très bien le mort vivant qui devient de plus en plus vivant. Ça, c'est vrai que c'est bien fait. Mais ça reste très ado, très romantique et tout ça. Bref, pour moi, si vous voulez avoir un livre, en tout cas, qui parle du côté dark side des zombies, donc vraiment le côté zombie, prenez plutôt Alice au Pays des Merveilles, ou plutôt Alice au Pays des Zombies, dont on a déjà parlé dans la 5e émission. Et là, vous serez beaucoup moins déçus.
We'll be right back.
Après la daube, quoi de mieux qu'un coup de cœur pour changer d'ambiance ?
Ce coup de cœur en est vraiment un, c'est promis. J'ai pas d'objection, j'ai pas de critique. Ça change. Je vais vous parler de Zombie Island, le premier tome d'une trilogie appelée Zombie Story, écrit par David Wellington et sorti en 2010. Bon, je vais être tout à fait franche avec vous. Je l'ai choisi au départ parce que le quatrième de couverture était très pourri et qu'en le lisant, je me suis dit « Parfait, ça fera une super daube ». Jugez par vous-même. De la chair fraîche dans le monde des zombies. À la suite d'une catastrophe mondiale, les pays les plus développés sont envahis par des hordes de zombies cannibales. Seules quelques enclaves subsistent, en Somalie notamment. À la recherche d'un remède au virus, un groupe d'adolescentes surarmées menées par un vétéran se rend à New York. Tous se croient préparés au pire, mais dans l'île de Manhattan en ruine, ils vont bientôt découvrir que la non-mort est loin d'être le destin le plus terrifiant.
Ce qui, les adolescents exceptés, fait quand même vachement penser à Zone 1 ou à Zombie Nostalgie.
Alors, je trouve nullissime qu'un bouquin comme Zombie Island perde du public à cause d'un quatrième de couverture aussi lamentable. Parce que ce bouquin est topissime. Je me permets de vous faire un vrai pitch, d'accord ? Delcab et sa fille Sarah habitent en Afrique. Delcab est un employé des Nations Unies. Et lorsque l'épidémie zombie se déclare, il fuit en Somalie pour survivre. Ils se font capturer par un groupe de résistantes somaliennes qui font partie de ce qui est appelé dans le livre la République des femmes libres de Somalie. Ce groupe est mené par Mama Halima, qui règne sur un groupe de jeunes filles, qui pour certaines ne sont que des enfants, mais qui sont surarmées. Petite parenthèse, Wellington touche là la problématique des enfants soldats. Hein. Gardez ça en tête. Ce groupe de jeunes somaliennes promettent la sécurité à Delcab et à sa fille, mais en échange, Delcab devra les aider à trouver un remède contre le sida parce que Mama Halima est malade. Et comme Delcab était un employé des Nations Unies, il connaît tous les sièges des Nations Unies. Ils ont peut-être un espoir de trouver dans ces endroits des restes de médicaments qui n'auraient pas encore été pillés. Ça, c'est le pitch de base, le vrai. Alors, je ne vais pas vous spoiler l'histoire. Delcab se retrouve à devoir partir à New York parce que bah, là-bas, il y a le siège des Nations Unies et que c'est peut-être là-bas qu'il y a encore le plus de chances de trouver quelque chose parce qu'en Afrique, tout a été pillé. Alors, il y a des zombies, il y a du sang, il y a du cerveau mangé, tout ce qu'on aime chez les zombies, mais il y a aussi quelque chose d'un petit peu plus profond et d'un petit peu plus recherché. Parce que Wellington touche du doigt plusieurs problématiques. Il fait que les effleurer, mais c'est pas grave. C'est suffisant juste pour nous les ramener à l'esprit. C'est cette problématique des enfants soldats, la problématique de l'excision des jeunes filles en Afrique. Tous ces sujets-là, lui, il les a vus, il les a côtoyés en tant que membre des Nations Unies. Et il se retrouve confronté à ça directement avec sa petite équipe de jeunes somaliennes. Le récit zombie, c'est un prétexte pour faire ressortir ça. Parce que pendant tout le roman, il est accompagné de ce groupe. Lors de son voyage à New York, il va rencontrer un zombie, Gary. Et c'est là que je trouve que Wellington est aussi assez génial. C'est que Gary est un zombie un petit peu spécial. C'est un zombie qui a choisi d'en devenir un. Quand il a vu que New York était complètement envahi et que tous ses proches avaient disparu et qu'il était un peu le dernier survivant, il a fait en sorte de se faire contaminer. Et quelle chance, il est étudiant en médecine. Il a fait en sorte de garder son cerveau vivant à l'hôpital où il travaille, etc. Je vous épargne les notions médicales. Mais il a fait en sorte de garder son cerveau vivant pour être un non-mort, mais qui a encore conscience. Donc c'est un zombie qui a une conscience, mais qui est toujours esclave de son besoin de chair.
«
Wellington est très fort avec les thématiques qu'il touche. Il est aussi très fort dans le caractère de ses personnages. Moi, j'ai un coup de cœur pour Del Cap qui... C'est pas un Terminator, c'est pas un Rambo qui va combattre les zombies, etc. Non, Del Cap, c'est un trouillard. C'est la seule chose qu'il veut, c'est mettre sa fille en sécurité. Et bah, il a peur. Il a juste peur et il se retrouve face à des gamines de 10-12 ans qui sont plus courageuses que lui. Zombie Island, premier tome d'une trilogie. Je ne sais pas ce que vaut le reste, mais le premier tome, il vaut la peine.
Où mondes imaginaires mêlent les petits plats dans les grands, pour vous parler de ce qui lui paraît le plus symptomatique ou représentatif d'un genre. La prise de notes, comme le thème de l'émission, vous parle de zombies.
Pas un bruit. Et faites attention, je vous l'ai déjà répété 300 millions de fois.
Alors, comme je l'ai dit, dans Mondes imaginaires, la prise de notes vous parle de romans, de textes fondateurs, de films marquants. Mais une fois n'est pas coutume, je n'ai pas résisté à l'envie de vous présenter une histoire illustrée des morts vivants. Mais je vous rassure, c'est loin d'être un essai ennuyeux, c'est un très beau livre avec plein d'images qui retracent toute l'histoire des zombies. Et ça s'appelle Zombie, avec un S et un point d'exclamation. Je précise, parce que si vous le cherchez sur Google pour l'acheter après ma chronique, parce que vous allez trouver ça fabuleux, vous ne le trouverez pas si vous ne mettez pas le S et le point d'exclamation. Jovanka Vukovic parle de tout dans son livre, en partant des origines du zombie en Haïti, de Romero et ses morts-vivants, des zombies des films italiens, y compris les films chelous avec des zombies qui viennent de Mars, et on finit avec des zombies américains dans les romans, les jeux vidéo et les comics. C'est sympa à lire, c'est un de ces livres que l'on peut prendre au milieu pour lire juste un bout, reposer et recommencer plus tard. Et en même temps, c'est un vrai tour d'horizon riche, intéressant et documenté pour vous rendre complètement incollable sur les zombies.
Zombies of the stratosphere. Out of the air and from under the sea, these weird zombies from Mars swarm in to annihilate the Earth.
Zombies of the Stratosphere, c'est une des choses que j'ai découvertes dans ce fameux bouquin Zombie de Jovanka Vukovic, qui est en fait soit un film, soit une série de 12 épisodes, selon à quoi on s'intéresse, qui ne parle ni de zombies, ni même de stratosphère. Et oui, dans ce bouquin, l'auteur parle aussi de ces fameuses arnaques qui existent, des fakes. Et oui, il en existe aussi dans le monde des zombies. Quelques petites informations rigolotes. Sachez que la Canadienne Jovanka Vukovic a été la figurante dans Dawn of the Dead et Land of the Dead de George Romero. Le même George, d'ailleurs, qui a fait la préface du bouquin. Je sais pas vous, mais pour moi, c'est plutôt bon signe par rapport à la qualité zombiesque du contenu de ce livre. Bref, je ne pouvais pas manquer de vous parler de zombies au pluriel avec un point d'exclamation pour cette prise de notes qui est, je le répète, le meilleur moyen d'être au top quand on parle de mort-vivant.
Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous affrontions un ennemi qui nous avait déclaré la guerre totale, la vraie. Il n'avait aucune limite, il ne négocierait jamais, il ne se rendrait jamais, il combattrait jusqu'au dernier. Et vous savez pourquoi ? Parce que contrairement à nous, chacun d'entre eux n'avait qu'un seul but dans l'existence : dévorer toute vie sur Terre. Max Brooks nous amène, via son livre World War Z, dans un format assez particulier qui ressemble un peu à un recueil journalistique. Nous avons plein de retranscriptions d'entretiens ou d'interviews. C'est d'ailleurs pour ça que Le livre s'appelle « World War Z, une histoire orale de la guerre des zombies ». Car tout est retranscrit, comme si c'était de l'oral, vraiment comme un entretien journalistique. C'est assez intéressant et ça nous permet d'avoir un panel de tous les domaines qui sont impactés par l'invasion zombie. Que ce soit militaire, comment est-ce qu'on se défend contre des zombies ? Les mines conventionnelles, par exemple, ne fonctionnent pas très bien. Ça fait des zombies handicapés. Alors, c'est super, sauf que c'est plus difficile à viser. Il y a plein de ces petites choses qui... On pourrait penser qu'on était préparé à ce genre de choses avec nos technologies, avec tout ça, mais face à des morts qui se relèvent, en fait, personne n'est jamais préparé. De plus, Max Brooks utilise le concept zombie pour faire aussi une critique de notre société. En effet, il parle par exemple du commerce de la peur, mais aussi de la charité. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on parcourt le globe dans ce livre. On va autant en Corée qu'au Japon, qu'en Amérique, qu'en Amérique du Sud, qu'en Europe. C'est vraiment international. Il y a eu un film qui est sorti en 2013 de Mark Forster avec Brad Pitt qui reprend un peu l'idée de World War Z, sauf que c'est un journaliste qui fait tout le tour du monde et qui vit en fait les anecdotes qui sont racontées dans le livre. Alors, c'est un peu moins intéressant, mais on voit le côté micro à macro de l'invasion, dans le sens qu'au début, on commence avec la famille, puis on va dans un groupe, et pour finir, toute une population. On a le côté aussi voyage international qui est très bien représenté, et la quête d'un remède. World War Z est donc un livre que je recommande. Certains l'ont critiqué de par son format, moi je le trouve intéressant. À vous de faire votre avis.
Prenez pas à la légère votre bien le plus précieux, la vie. Bah oui, les zombies attaquent, il faut se sauver, se protéger. Mais que faire ? Rien ne vaut une bonne to-do list avec les trucs, les astuces et le matériel de survie. Merci Max Brooks, et oui, le même que World War Z, d'avoir pensé à nous, pauvres mortels qui risquons la mort à chaque zombie croisé. Le guide de survie en territoire zombie est un développement complet et assez exhaustif de la pop culture zombie. Il y a le type d'épidémie, les épidémies répertoriées, le type de fuite possible, parce que ben, si on n'arrive pas à se défendre, autant foutre le camp. Il y a aussi comment chasser les zombies au cas où on serait un grand aventurier qui a envie de tenter le diable, un plan pour s'y retrouver et un journal de bord. Alors, je vais être tout à fait honnête avec vous et espère ne pas me faire lyncher par mes collègues en disant ça. Je ne suis pas super fan du guide de survie en territoire zombie. Mais il faut quand même avouer que Max Brooks est THE auteur des zombies, notamment avec World War Z.
Et c'est une référence. Malgré tout, ce guide est une référence.
Voilà. Donc, ça a sa place dans la prise de notes. Et on ne pouvait pas ne pas vous en parler. La force de cet ouvrage, malgré tout, parce qu'il faut quand même rester objectif, c'est son humour et ce tour de l'univers zombie en immersion. Et c'est aussi un très très joli livre de poche, dans une belle édition avec un coffret et puis des suppléments assez rigolos qui en ajoutent au charme, genre des stickers zone infectée. C'est un livre aussi qui a un côté assez jeu de rôle, comme ça, à soi tout seul, qu'on peut lire aux toilettes, parce que avec ce côté immersif, on peut devenir chasseur de zombies certifié, le petit certificat avec où on peut signer. Et ce côté jeu de rôle marche tellement avec le côté immersif de la langue et de voilà, vous pouvez devenir un chasseur, qu'il existe effectivement un jeu qui a été lancé par Project Zomboid. Donc si vous aimez les zombies, ben vous aimerez le guide de survie en territoire zombie, et peut-être que vous aimerez le jeu aussi. Se demanderait ce qu'était cette musique un peu dépressive au sein de votre émission Mondes Imaginaires, sachez que c'était le thème du film Young Frankenstein, réalisé par Mel Brooks, qui est en fait le papa de Max Brooks.
On ne pouvait pas parler des zombies sans vous parler de la série culte Walking Dead. En effet, cette série, qui a été créée en 2003, parle d'un groupe de survivants qui va se rendre compte que les zombies, c'est méchant, mais les survivants, ça peut l'être aussi. Cette série est à la base adaptée d'une BD qui raconte justement l'histoire de ces survivants et surtout est très psychologique et je dirais même psychosociologique. On voit comment est-ce qu'un groupe de survivants peut essayer de survivre face à des zombies, mais aussi face aux autres humains. Parce que ce cataclysme provoque en fait une sorte de déchéance de l'autorité et la nature humaine se révèle dans toute sa splendeur ou surtout toute son horreur. Il y a aussi un jeu vidéo qui a été créé sur le thème de Walking Dead. C'est ce qu'on appelle un Telltales, qui est une sorte de jeu film interactif. Dans le sens, c'est un peu comme un livre dont vous êtes le héros. Donc vous avez des choix à faire, des interactions à faire. Il y a une petite partie de gameplay sur les énigmes, on va dire, des petits objets à trouver à droite, à gauche. Mais les choix, par contre, sont déterminants, scénaristiquement parlant. C'est assez intéressant et je vous le conseille fortement. J'en profite pour vous parler d'une autre série qui s'appelle The Nation, qui est sortie en 2014, qui parle aussi de survivants et de zombies. Sauf que dans ce groupe de survivants, ce n'est pas une recherche ou une quête du remède. Le remède est parmi eux, car il y a une sorte de porteur sain qu'ils doivent amener dans un laboratoire. Sauf que ce porteur sain, il n'est pas forcément très d'accord d'être le porteur sain. Je vous laisserai regarder. C'est pour moi bien plus intéressant que Walking Dead. Faites votre avis et dites-nous.
Terminer cette prise de notes de mondes imaginaires spécial zombie avec un phénomène de mode. Et oui, c'est la grande mode dans le monde du jeu de société, le jeu coopératif. Alors on est loin de la fight en solo à la recherche de la victoire parce que le principe c'est de jouer tous ensemble pour atteindre un but commun. Et moi, je kiffe. J'avoue, je kiffe aussi parce que j'ai pas forcément beaucoup de chance et que d'habitude je perds. Là, l'avantage c'est comme on gagne ou on perd ensemble, pour moi c'est le top. Parce que je perds pas toujours, c'est plutôt pas mal. Et le top du top, c'est quand, pour gagner tous ensemble, on doit bastonner des méchants.
Il y a quand même un mode rivalité entre deux équipes dans Zombicide.
Oui, parce qu'en fait, je vais vous parler de Zombicide, pour ceux qui ne le savaient pas encore, vu que je ne l'ai pas encore dit. Effectivement, on va parler de Zombicide. Ce que j'allais dire aussi, c'est qu'il ne faut pas croire qu'en fait, quand on joue ensemble contre le jeu, ça fait des parties faciles. Non, non. Le jeu collaboratif, c'est à peu près aussi stressant et prenant qu'un bon jeu vidéo, plus addictif, en tout cas pour moi, qu'une partie d'échecs ou un colon de Catan. Le secret du jeu collaboratif immersif, c'est trouver le bon méchant, celui contre lequel s'allier. Les zombies, ça tombe bien, c'est moche, c'est méchant, et comme en plus ça détruit l'humanité après une bonne petite apocalypse zombie, c'est un parfait punching ball. Dans Zombicide, vous jouez un survivant. Oui, après l'apocalypse, il reste quelques survivants très, très, très remonter. Et pour gagner, il faut trouver des armes, faire évoluer son personnage et, bien entendu, tuer des zombies. Sauf que plus on évolue, plus on tue de zombies, mais aussi plus il y a de zombies. Et il y a plus de zombies que de balles pour les tuer tous. Heureusement pour les joueurs, les zombies sont agressifs, stupides, mais mortels, ce qui laisse une petite chance de gagner. Le plus du jeu, c'est que le perso est évolutif, mais comme les règles de jeu sont super simples, on est très loin de la complicité d'un jeu de rôle. Et puis, il y a trois boîtes de base, qu'on appelle des séries, avec chacune 10 scénarios possibles, et la possibilité d'ajouter deux boîtes d'extension. Jess me disait tout à l'heure qu'en plus, ils ont fait une série, enfin un hors-série spécial médiéval, donc tout le monde peut s'y retrouver. Donc le jeu n'est pas infini, mais presque, et l'ambiance bien glauque et stressante est idéale pour un jeu collaboratif qui marche. Donc si vous avez une âme de tueur de zombies, en groupe avec des potes, Zombicide est fait pour vous. Fait un petit récapitulatif de notre prise de notes. On vous a parlé de zombies pluriel point d'exclamation, de World War Z, du guide de survie en territoire zombie de Walking Dead et de The Nation, et du jeu Zombicide. Monde imaginaire, c'est terminé. On se quitte en vous souhaitant de pas trop rencontrer de zombies sur votre chemin. On espère que vous avez apprécié passer ce moment en notre compagnie. Et on se retrouve le mois prochain avec une thématique que l'on est en train de déterminer et qui tournera probablement autour de orphelinat, enfants, Tim Burton. Bref, vous découvrirez ça avec nous. Et d'ici là, on vous souhaite d'excellentes lectures. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Bye.
Who is this irresistible creature who has an insatiable love for the dead?
Wings.
nation filth. They love to love the wealth of an SS whore making scary sounds. You kill.